Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien et bienvenue dans Analyse F1, le podcast hebdomadaire qui parle donc de Formule 1, évidemment. Et aujourd'hui, on va parler un peu du début de saison, revenir un peu sur le début de saison, analyser un peu ce qui s'est passé d'important, du moins ce qu'il s'est passé de vraiment important, et éclaircir un peu ce qu'on peut tirer des deux premières courses de la saison. Donc, dans une certaine logique, la première partie du podcast sera consacrée à la hiérarchie que l'on peut commencer à dégager, la hiérarchie du plateau en termes d'écurie. Je ne parlerai pas des pilotes, hein, juste des écuries. Et pour voir un peu qui se détache devant, comment ça se passe au milieu, comment ça se passe derrière, et les perspectives pour la suite de la saison. À mon avis, c'est quelque chose qui compte pour vous, chers auditeurs et chers passionnés de F1, puisque après deux courses, ça peut paraître flou un peu de se dire « Ouais, au final, Ferrari a gagné, mais est-ce qu'ils vont pouvoir encore rivaliser ?» Derrière, est-ce que Red Bull va pouvoir remonter? Est-ce que d'autres équipes vont pouvoir remonter? Je comprends pas, Lotus a 0 point alors que Grosjean semblait si positif. Bref, je comprends que ce soit un peu flou, c'est pour ça que j'ai décidé au cours de ce podcast et au cours de cette chronique d'analyser tous ces points. Et donc, lors d'une deuxième chronique, je reviendrai plus précisément sur les pilotes Ferrari et leur regain de forme cette saison. Mais pour l'heure, on va parler un peu de la hiérarchie, donc on va commencer par les premiers au classement constructeur et on finira par les derniers, logiquement. Donc on commence par Mercedes, vous l'avez tous en tête, Mercedes qui est premier du championnat du monde des constructeurs, avec une victoire, j'allais dire deux victoires, et non une victoire, l'autre victoire c'était Vettel sur Ferrari, mais Mercedes confirme son statut de favori, hein, et plutôt logiquement, ils ont fait un gros travail sur la fiabilité lors des essais hivernaux et ça a payé puisque il n'y a pas eu de souci de fiabilité en course de la part des Mercedes. En performance aussi, ils ont fait un gros travail Mercedes pour apporter les évolutions aérodynamiques nécessaires. Et il y en a d'autres qui sont à venir pour reprendre vraiment l'avantage sur Ferrari. Donc cette course à la performance va être vraiment très intéressante à suivre tout au long de la saison, je pense. On va avoir vraiment du haut niveau en termes de pilotage, en termes de temps effectué en course, puisque les monoplaces de 2015 sont plus rapides que celles de 2014, hein, de quelques secondes. Donc ça va être vraiment très intéressant à bien des niveaux. Et donc Mercedes confirme son statut, est devant et... Et l'unité de puissance, comme l'écurie, a fait du bon boulot, encore une fois. Donc, c'est en toute logique qu'on les retrouvera à la lutte pour le titre cette saison. Sans compter, je parle pas des pilotes trop aujourd'hui. Mais bon, évidemment, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ils ont deux grands pilotes, donc ça aide également. Ferrari, deuxième du championnat du monde des constructeurs. Et quel deuxième, hein, Ferrari, on va en parler parce que c'est la sensation du début de saison quand même. C'est la surprise avec vraiment un grand pas en avant qui a été effectué du côté de Maranello. Les changements qui avaient été annoncés en pré-saison, on pouvait se dire, bon, c'est du marketing, ils vont nous vendre des changements comme ils l'ont déjà fait. Et au final, il va rien se passer avant un certain moment. C'est des changements un peu de communication. Eh bien non, ce n'était pas que du vent médiatique. Cette fois-ci, c'était vraiment des vrais changements efficaces. Des vrais changements qui n'étaient pas juste de la forme, mais du fond. Et qui ont fonctionné, les changements en interne, que ce soit du côté de Maranello, du côté des cadres, du côté des ingénieurs, des mécanos, du côté des pilotes. Tout a pris, la mayonnaise a pris, et très très vite, et même... plus vite que prévu, hein. On s'y attendait vraiment pas. Personne s'attendait à une victoire de Ferrari dès le deuxième Grand Prix de la saison. C'était juste exceptionnel et ça relance, on va dire, ça donne un intérêt supplémentaire à cette saison. Ça, c'est clair. Parce que Ferrari va lutter avec Mercedes tout au long de la saison, je pense. Même si Mercedes conserve un avantage, hein, selon moi. Attention, hein, Mercedes, quand même, ils ont une longueur d'avance et Ferrari essaie de rattraper. Ils ont certes obtenu une victoire de bien belle manière, je vais y revenir, mais ça change rien que Ferrari doit encore faire des efforts pour aller de l'avant. En tout cas, voilà, l'unité de puissance a été améliorée de Ferrari, ça c'est clair. Le châssis également, et là on peut vraiment parler d'une patte James Allison. Vous savez que j'aime bien mettre en avant cet ingénieur, mais c'est comme Adrian Newey, c'est vraiment des génies dans leur métier. Et James Allison a vraiment fait du très bon boulot sur cette Ferrari. Avec apparemment, selon certains spécialistes, des qualités qui ressemblent aux qualités qu'avait la Lotus à l'époque. Donc c'est vraiment très intéressant, sachant que Ferrari a des moyens tout autres que Lotus. On peut espérer vraiment une Ferrari très fringante tout au long de la saison avec les évolutions que va apporter le team italien. En parlant de gros changements également en interne, on peut parler de Maurizio Arriva Bene, avec mon accent italien qui ne va pas du tout, j'aurais dû le dire normalement, Maurizio Arriva Bene, ça suffira très bien, qui, selon moi, incarne une figure où peuvent se retrouver les tifosi. Les tifosi peuvent se retrouver en Maurizio Arriva Bene, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que quand on le regarde et quand on le suit, quand on l'écoute, il est dur et paternel à la fois. On se souvient, c'était au Grand Prix de Melbourne, il y avait eu un mécanicien qui avait eu du mal, je crois, c'était le mécanicien en charge du pistolet de la roue arrière-gauche pour un arrêt au stand d'un des pilotes. Et qui s'était complètement loupé. Là, je me suis dit, oulala, il va prendre cher. On était, je pense, nombreux à se le dire. Mais on a vu Maurizio Arriva Bene qui est venu. Certes, il a dû être dur quand même avec ce mécanicien. Dans le sens, bon, c'est une faute grave quand même en course, alors qu'il y a des entraînements, ils font des entraînements, mais vraiment très souvent, les mécanos pour changer les pneus. Donc c'est vraiment une erreur à ne pas recommettre une deuxième fois. Mais Maurizio Arriva Bene, il est venu parler personnellement à ce mécanicien et il s'est montré assez paternel avec lui finalement, assez compréhensif pour lui redonner l'envie, pour pas le stresser pour les prochaines fois, pour au contraire lui donner l'envie de réussir. Et voilà, donc il incarne une figure dure et paternelle à la fois. Et puis, quand on le voit, il y a quelque chose qu'on peut sentir. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi je le ressens beaucoup, c'est qu'on sent vraiment qu'il s'est pris des coups dans la vie. Il s'est pris des coups dans la vie, et c'est quelqu'un de fort mentalement. On le sent, et il veut pas exprimer les émotions. On l'a vu lors de la victoire Ferrari, il veut pas exprimer les émotions, mais on sent qu'il s'est pris des coups, et que ce soit positif ou négatif ce qui va arriver avec Ferrari, que ce soit un coup émotionnel fort dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il reste fort, il va avoir ce visage assez dur, mais on sent qu'il est ému, mais voilà, il veut rester impassible et fort mentalement, et ça c'est vraiment le visage de quelqu'un qui s'est pris des coups, et donc c'est très intéressant pour Ferrari d'avoir une personnalité comme ça à sa tête, parce que ça le rend d'autant plus légitime, et comme je l'ai dit, il va, à mon avis, il devrait plaire aux tifosi si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, donc Ferrari, début de saison très très bon et assez exceptionnel. À voir par la suite. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Ben, des évolutions permanentes et rester au basque de Mercedes pour les pousser dans leur retranchement, tout simplement. Et ça va être très intéressant. Le rythme en course de Ferrari est très très bon. Très très bon. Franchement, pour un début de saison, c'est du très haut niveau à tous les niveaux. Et stratégiquement aussi, j'en ai pas parlé. Mais la stratégie de Ferrari lors du Grand Prix de Malaisie, que ce soit pour l'un ou l'autre des pilotes, était parfaite, c'était du haut niveau, le rythme de haut niveau, des pilotes de haut niveau. Bref, on peut s'attendre à une lutte sur le long terme entre Mercedes et Ferrari. Avantage Mercedes, mais attention, Ferrari pousse en troisième place du championnat du monde des constructeurs. On retrouve Williams, toujours la troisième force du plateau. Donc c'était le premier objectif, c'est le premier objectif en tout cas de Williams cette saison, c'est de rester la troisième force. Mais ensuite, il y avait un deuxième objectif quand même. Très important pour Williams cette saison, c'était de franchir le pas de la victoire. Parce que la saison dernière, Williams avait la monoplace pour effectuer plein de podiums, et a effectué plein de podiums, mais a loupé le coche quelques fois. Bon, ils étaient face à une Mercedes vraiment on ne peut plus fringante, ça c'est clair, assez historique, la monoplace de Mercedes. Mais voilà, cette saison, ils aimeraient obtenir une victoire. Ça semble compliqué, les développements portés sur la Williams sont corrects, mais ne sont pas encore pleinement satisfaisants. Donc à voir s'ils ont prévu un développement permanent au cours de la saison. Je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu parler de ça. Il faudra suivre de près cette histoire. Après, est-ce qu'ils peuvent revenir sur Ferrari et Mercedes ? Ça semble, Ça semble compliqué, franchement. Ça semble compliqué vu le niveau appliqué et vu le retard de Williams pour l'instant. Parce qu'il faut bien se dire que en ce début de saison, Mercedes, en première course, a mis une mine à tout le monde en termes comment dire, de temps, d'avance en fin de course. Et là, Mercedes et Ferrari, en termes de rythme de course en Malaisie, étaient bien au-dessus du lot, hein. C'était juste très flagrant. Et Williams n'était pas dans le coup. Donc ça va être très compliqué d'aller chercher une victoire cette saison pour Williams. Il faut voir, il faut voir. Mais ça va être quand même compliqué pour la suite. Mais en tout cas, pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs, ils peuvent se tenir à cet objectif. Je pense que c'est jouable, d'autant plus que pour l'instant, début de saison, ils profitent des déboires d'autres écuries top qui devraient être à la lutte dès maintenant. En quatrième position du championnat du monde des constructeurs, on retrouve, c'est une surprise, mais bon, c'est que la deuxième course, c'est Sauber. Sauber qui peut profiter de ce début de saison, hein, ça c'est clair, mais qui ne va sûrement pas en profiter beaucoup plus. Donc c'est vraiment dommage, ils vont pas en profiter beaucoup plus. Pourquoi? Parce que malheureusement, Sauber ne pourra pas vraiment profiter de l'argent du sponsoring. Car il y a eu l'indemnisation de Guido van der Garn qui a fait mal. Et puis peut-être celle de Sutil, parce que Sutil là se lève et vient aussi chercher des noises à Sauber. Enfin, chercher des noises, vient aussi essayer de faire valoir ses droits devant la justice envers Sauber. Donc l'affaire n'est pas finie et c'est dommage pour Sauber qui a vraiment tout gâché. Alors que cette saison aurait pu être quand même bien mieux, mais là, ça va être très compliqué de comment dire, de continuer les évolutions peut-être prévues avant, de rester dans la lutte avec d'autres écuries. Ça va être quand même compliqué. En plus, Marcus Ericsson a fait une grosse erreur, une erreur un peu de débutant au deuxième Grand Prix. Bon, c'était la première erreur, donc bon, on va pas trop l'accabler quand même, hein. Mais c'est vraiment la dernière affaire de ce type, quoi, parce que c'était vraiment une grossière erreur. Et pour une écurie qui ne peut pas se permettre d'attendre bien plus longtemps pour obtenir des points, s'il y a une autre erreur d'Ericsson, ce sera vraiment une faute professionnelle de sa part. Après, à la décharge des pilotes, il faut savoir qu'ils ne sont pas dans un contexte vraiment très facile, ils ne sont pas dans un climat favorable. Pour exprimer leur potentiel au maximum, mais voilà, il faut pas non plus les prendre pour des bébés, les pilotes. C'est des adultes professionnels et normalement, selon moi, des pilotes professionnels doivent être capables de faire abstraction de tout ce qu'il se passe autour pour se concentrer sur leur pilotage. C'est d'ailleurs généralement leur communication qui quand ils communiquent à la presse, généralement, on ressent ça. Donc, ils doivent le mettre en pratique. Donc, ce n'est pas non plus une excuse, une très bonne excuse. Donc, attention, les pilotes Sauber doivent être au niveau très très vite là, hein, parce que Sauber, ça va être compliqué pour ramasser des points en deuxième partie de saison. Et même dès la saison européenne, peut-être, ça sera déjà la fin. Mais c'est du gâchis, c'est vraiment du gâchis car Sauber a un bon rythme en course, on sent qu'ils ont vraiment un bon rythme en course et en plus d'autres écuries déçoivent, donc l'alliance des deux pourrait faire que Sauber puisse lutter pour une place honorable en fin de saison, mais malheureusement les erreurs contractuelles ont fait que sans argent, avec moins d'argent, ça va être compliqué de poursuivre un développement efficace. En cinquième place du championnat du monde des constructeurs, on retrouve Toro Rosso. Toro Rosso. Alors Sauber, non, ils vont pas lutter avec Williams, Ferrari ou Mercedes. Hein, ça, c'est non. Si vous voulez savoir ça, il faut l'oublier tout de suite. Toro Rosso, cinquième. Alors ils ont un rythme correct. Ils ont un rythme correct qui serait encore meilleur si l'unité de puissance Renault était au maximum de ses capacités, ce qui va arriver incessamment sous peu, je n'en doute pas. Mais ils semblent avoir un rythme correct. Ils profitent aussi du début de saison, hein, ça c'est clair, ils doivent en profiter. Pour l'instant, ça se passe bien pour Toro Rosso. Ils exploitent bien leur monoplace. Les deux pilotes débutants font le travail. On peut pas dire qu'ils ont fait des grossières erreurs en course ni rien. c'est pas mal. Mais attention, attention à ne pas à ne pas commettre de conclusions hâtives comme je l'ai vu à de nombreuses reprises quand même, hein. J'ai vu de nombreuses conclusions hâtives sur les pilotes débutants. C'est bon, ils ont fait une course cool, du coup on n'a plus à parler mal d'eux. Attention, hein, ça se juge sur bien plus de courses, hein, pour voir ce qu'ils valent réellement. Donc Toro Rosso, leur objectif c'est de lutter pour le top 10, hein, surtout le long de la saison. Donc à voir, hein. C'est un peu flou, on ne sait pas trop si ça va être le cas, ça dépend si Red Bull va remonter, si Force India va aussi bien développer sa voiture, si ça va dépendre de McLaren également quand ils vont remonter, de Lotus quand ils arriveront à résoudre leurs problèmes de fiabilité. Donc voilà, ça dépend de pas mal de choses et faudra suivre les courses avec attention, les courses suivantes avec attention. Ensuite, au classement du championnat du monde des constructeurs, on retrouve Red Bull derrière Toro Rosso, derrière l'écurie sœur, donc ça la fout mal. Très décevant début de saison alors que Red Bull vise le top, hein, très clairement. Il y a eu des déclarations un peu vaseuses, hein, par presse interposée après le premier Grand Prix de la part de Red Bull et de Renault. Donc on va dire que ces dissensions, ça traduit inévitablement l'alliance calamiteuse du châssis et de l'unité de puissance qu'on voit au début de saison. Ils vont pas du tout ensemble les deux et il y a du travail à faire à la fois chez Red Bull, à la fois chez Renault, ça c'est clair. Parce qu'il y a eu des mauvaises choses des deux côtés. Donc voilà, c'est quand même très décevant de la part de Red Bull. C'est le premier châssis, le premier mauvais châssis peut-être depuis 6 ans, 5-6 ans. Donc depuis avant 2009 en tout cas. Donc attention, mais bon, on est qu'au début de saison et puis ils ont confiance en leur savoir-faire. Donc il faut quand même les attendre au tournant. Ils pourront peut-être remonter sur Williams. Ça me semble possible. De la remonter sur Ferrari et Mercedes, ça me semble compliqué. Peut-être pas impossible, il faut voir. Il faudra vraiment voir quand l'unité de puissance Renault sera au maximum de ses capacités et quand ils auront bien intégré l'unité de puissance à leur châssis, ça sera déjà plus parlant, mais il faut que ça vienne vite, sinon il y aura trop de points de perdu. Il faudra voir l'évolution de tout ça à l'avenir également. Donc voilà, certes, je vous apporte des éclaircissements dans ce podcast, mais il faut bien comprendre qu'on est qu'au début de saison et qu'on ne peut pas tirer de conclusion tout de suite. Et vous me connaissez, je déteste, on va dire, mettre des conclusions sur l'autel du buzz. C'est-à-dire faire des conclusions juste pour attirer des gens. Non, moi j'essaye de rester assez objectif et d'observer les faits et d'analyser ce qui se passe. Donc voilà pour Red Bull ce qu'il en est. Pour Force India, comme prévu, le rythme en course est lent, mais il faut saluer leur très grande fiabilité quand même. Ils peuvent capitaliser sur ça en début de saison. Mais attention, ils n'ont pas un rythme rapide. Donc déjà un rythme moins rapide que Toro Rosso et Sauber. Donc ça va être très compliqué de lutter pour les points dans les courses à venir, de plus en plus compliqué. Donc voilà, mais en tout cas on peut saluer leur fiabilité. Et comme prévu, comme je l'avais dit, ils ont très certainement, ils ont basé leur châssis sur celui de 2014 pour tout ce qui concerne, tout ce qui entoure l'unité de puissance. Donc c'était une très bonne idée. Bon. Ensuite, ils ont un rythme lent, mais c'est normal, hein, ça aurait été vraiment un exploit que ce soit autrement, comme je l'avais déjà dit. Selon Force India, il y a des évolutions à venir. Bon, avec quel sou? Est-ce que ce sera des évolutions régulières? On ne sait pas. Hein. Moi, je pense que la saison va être compliquée pour Force India, malgré un line-up très intéressant. Mais là aussi, c'est à voir. Il y a un peu une inconnue, mais pour l'instant, le rythme est assez lent et on peut les attendre au-delà de la 10e place en termes de performance dans les courses à venir. Ensuite, on tombe aux écuries qui ont 0 points, qui n'ont marqué aucun point cette saison. Il y en a 3. Il y a McLaren. McLaren, ben, aucune surprise, hein. Quand on a suivi les déclarations et les essais hivernaux, ils ont 0 points. Après, c'est quand même plus surprenant quand on tient en compte l'aspect top team historique de McLaren et l'aspect, on va dire, je reviens sur le devant de la scène grâce à Honda en 2015. Et oui, l'année dernière, on pouvait se dire, ah, bon, il compte sur la soupape, on va dire, le. Bon, ils comptent sur Honda pour vraiment revenir sur le devant de la scène, mais bon, c'est vraiment la dernière chance Honda, parce qu'il y a déjà eu 2 années, on va dire, très ridicules de la part de McLaren. Et là, s'il y en avait une troisième, si la deuxième partie de saison ne pousse pas en faveur de McLaren, c'est-à-dire s'ils vont pas dans la lutte pour le podium, À mon avis, ça va être, ou pour le top 5 au moins, mais vraiment pour le podium, parce que là, le projet McLaren Honda, c'est pas prévu pour être un projet top 5, c'est prévu pour être un projet top 2, quoi. Donc, ce sera assez ridicule qu'il n'arrive pas à ça en fin de saison. Donc voilà, et puis c'est dommage pour les pilotes, tout simplement. Jenson Button et Fernando Alonso, hein. Faire venir une Dream Team comme ça. Et puis pour ne rien faire, ce serait vraiment du gâchis encore une fois. Faudra attendre la deuxième partie de saison. Bon, ensuite il faut mettre en perspective que c'est la première saison de ce motoriste de Honda. Donc il faut mettre en perspective cela avec la première saison des motoristes l'année passée. Donc si on se réfère en 2014, eh bien pour la performance, en ce qui concerne la performance de Honda, c'est normal. Quand on voit les temps, c'est normal. L'année dernière, c'était à peu près pareil. Bon, par contre, quand on parle de la fiabilité, c'est là qu'il y a un gros problème, hein. Pas de fiabilité, alors qu'ils avaient une année de plus pour développer le moteur. Donc ça, c'est vraiment pas normal au niveau de la fiabilité, hein. Vraiment pas normal. Et là, on peut vraiment critiquer Honda et McLaren de ce côté-là. Et voilà, et du côté du fait que la performance, c'est plus ou moins normal, certes. Mais ils ont eu une année de plus pour développer leur unité de puissance. Donc c'est vraiment, on va dire, une nuance à nuancer encore une fois pour McLaren Honda. Et puis c'est dommage pour Honda parce qu'ils sont vraiment réputés pour leur voiture de série, hein, vraiment moteur réputé. Mais là ça donne pas une bonne image, hein, c'est quand même le sommet de la F1, ils ont 0 points. Attention, il faut vite revenir, en tout cas progressivement mais sûrement. Lotus 0 points, ce n'est pas normal également. Ils ont l'unité de puissance Mercedes, tout devait bien se passer cette saison. En tout cas, il y avait des grands espoirs de retourner dans les points puis de lutter pour le top 5. Ils semblent avoir le rythme pour lutter dans les points régulièrement, en tout cas. Peut-être pas pour le top 5, mais pour les points, ça c'est sûr. Mais voilà, la fiabilité est très mauvaise. Je crois qu'il n'y a qu'une seule voiture qui a rallié le drapeau à damier en deux courses. Donc c'est vraiment très dommage. C'est une grosse déconvenue. Et il faut vraiment améliorer ça très vite parce que Lotus peut pas se permettre ça tout simplement alors qu'il pourrait être ben leur potentiel voudrait qu'ils soient au-dessus de Force India et de Toro Rosso je pense et de Sauber également de ces trois écuries ou en lutte avec Toro Rosso Sauber pour l'instant mais vraiment ils ont le rythme pour aller en top 6 top 7 voire top 8 on va dire parce que faut pas oublier Williams. Donc attention à Lotus à ne pas perdre trop de points en début de saison, parce que ça reste des points, que ce soit début de saison ou fin de saison, ça reste des points à prendre ou à perdre, donc il faut vite remonter. Il y a quand même une satisfaction du côté de Lotus, c'est que la voiture est compréhensible au niveau du pilotage pour les deux pilotes, et donc ça facilite les réglages, et puis pour apporter des évolutions pertinente, ça va être possible alors que la saison dernière, la voiture réagissait d'une certaine façon à un tour, d'une autre façon à un autre tour. C'était quand même très compliqué pour Romain Grosjean et Pastor Maldonado de comprendre la voiture. Ça, elle était incompréhensible parce que c'était un déchet tout simplement. Cette année, ce n'est pas le cas. C'est juste la fiabilité qui manque à Lotus de trouver les problèmes et de les régler très très vite. Ce serait bien pour eux. Et enfin, en dernière position, et c'est logique, on trouve Marussia Manor. Déjà, c'est très bien qu'ils courent. Il faut se le dire, hein, c'est très bien qu'ils courent. On donnait pas cher de leur peau il y a quelques mois. Selon Manor, il y aurait une version B de la monoplace à Monaco. Parce que là, ils ont apporté une première version, histoire d'être conforme à la réglementation et de pouvoir courir en début de saison. Mais il me semble qu'ils ont annoncé une version B à Monaco. Si je me trompe pas, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux ou sur PodCloud pour me faire savoir si j'ai confondu ou si je me suis trompé. Mais bon, faut déjà que le team tienne jusqu'à Monaco. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas si le team peut tenir jusque-là en termes financiers ou quoi. C'est très compliqué. On ne sait pas également quel pilote il y aura parce que apparemment pour Méhri, ce serait pas forcément le pilote titulaire tout au long de la saison. Bon, ils vont peut-être faire appel à des fonds d'autres pilotes. On verra bien comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est assez décevant en termes de performance, même de fiabilité, puisqu'il n'y a qu'une seule voiture qui a couru en deux courses. Donc, c'est compliqué. À mon avis, l'objectif, c'est qu'il y ait les deux qui courent en Chine déjà, et voir les deux qui rallient l'arrivée, ce sera encore mieux. Voilà. Donc, en définitive, la hiérarchie peut évoluer un peu en haut. Mercedes, Ferrari, peut-être le retour de Red Bull, j'y crois pas trop. Williams, peut-être, mais j'y crois pas trop non plus. On sent vraiment Mercedes et Ferrari vraiment au-dessus pour l'instant. Ça peut évoluer peut-être un peu. Mais voilà, c'est peut-être un peu en fait l'évolution en termes de Mercedes-Ferrari. Mais c'est très important le petit peu que peut apporter cette modification. Puisqu'au lieu de voir un duel entre deux pilotes Mercedes, là on peut peut-être avoir un duel à quatre. C'est peut-être ce qui peut s'annoncer si Ferrari poursuit les bons développements ainsi que Mercedes. On peut avoir un duel à quatre, ça ne veut rien dire, une lutte à quatre, pardon, pour le titre, que ce soit constructeur ou pilote. Donc c'est très intéressant. Ça va être très intéressant à suivre cette saison. Ça redonne de l'intérêt, on ne s'y attendait pas il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, même la veille du Grand Prix de Malaisie, on ne s'attendait pas à ça. Mais finalement, le rythme en course a parlé et les performances des pilotes Ferrari ont parlé également. Mais voilà, on peut s'attendre surtout à des modifications en termes de hiérarchie. Bon, c'est moins important par contre, il y a beaucoup plus de modifications possibles, mais c'est moins important. C'est au milieu et en fond de grille, évidemment. Comme je l'ai dit, bon, Williams avec Red Bull, peut-être la lutte pour la troisième place des constructeurs. Ensuite, il y a d'autres écuries. Peut-être Lotus peut revenir dans le top 10 à la lutte avec Toro Rosso. Peut-être Lotus à la lutte avec Williams, si jamais Lotus a une bonne monoplace en termes de performance. Voilà, après, pour les points, Toro Rosso peut faire le travail, il semble avoir une monoplace intéressante. Sauber, ça va être compliqué, mais il faut qu'il capitalise en début de saison. Force India, pareil, ça va être compliqué. McLaren va remonter sûrement en deuxième partie de saison, mais on n'est pas encore sûr, on attend de voir ça. C'est leur dernière chance de, on va dire, de faire bonne figure dans les années 2010, on va dire. Enfin, en début d'année 2010. Et Marussia, ben, le but c'est de finir des courses et voilà, et de faire la saison tout simplement et de faire découvrir des pilotes. Tout simplement. Eh bien voilà, c'est la fin de cette chronique, mais pas du podcast. Hein. On se retrouve après la pause musicale qui est la musique Race par No Control. A tout de suite. on se retrouve tout de suite dans Analyse F1 pour parler du regain de forme de Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen. Rassurez-vous, ça va durer assez vite. C'est pas une chronique que je compte vraiment faire très longue puisque j'avais déjà parlé de Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen la saison passée. L'été dernier, j'avais parlé du problème de ces deux pilotes qui est assez similaire. Parce que, pour remettre dans les faits, parce que vous devez vous dire, mais comment ça se fait que Raikkonen et Vettel soient aussi performants cette saison alors que l'année dernière, ils étaient presque nulle part. En tout cas, Kimi Raikkonen tout au long de la saison nulle part et Vettel, par intermittence, était là. Eh bien, on va revenir sur l'année dernière, vite fait. Souvenez-vous, pour ceux qui écoutent, en tout cas, qui écoutent Analyse F1 depuis un certain temps et qui étaient tombés sur ce podcast, en tout cas, eh bien, mon propos ne va pas paraître surprenant et vous attendez sûrement déjà à ce que je vais dire. Mais ça peut quand même être intéressant de revenir sur tout ça et de voir ce qui se passe maintenant. Tout simplement, Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel ont eu du mal en 2014 avec les évolutions apportées par la F1, sur les F1. Les grosses évolutions majeures que l'on connaît. Et donc, ils n'ont pas su s'adapter. Ce qui est un défaut, hein. Attention, c'est vraiment un défaut parce que d'autres pilotes ont su s'adapter et pas eux. Donc forcément, c'est pas à mettre à leur crédit, hein, ça c'est sûr. Ils ont pas fait du très bon boulot. Mais, je l'avais dit l'année dernière, ça ne veut pas dire que leur talent s'est envolé. Parce que, il y a des essais hivernaux, ils auront le temps d'adapter leur pilotage et de faire mieux la saison prochaine. Et j'avais dit, si vraiment ils ne font pas mieux, c'est vraiment que là, il y a un gros défaut dans leur approche du pilotage de ces nouvelles monoplaces et que ça va être très compliqué pour eux pour la suite de leur carrière. Mais on parle de deux champions du monde. Un quadruple champion du monde, tout de même, Sébastien Vettel, et un champion du monde en 2007, Kimi Raikkonen. Donc, deux grands pilotes. Et il y a eu plusieurs facteurs qui jouent à l'intersaison. Tout d'abord, il y a eu Ferrari, comme je l'ai dit en première partie de podcast, Ferrari qui a amélioré sa monoplace. Donc, ça veut dire beaucoup. Donc, qui a amélioré la tenue de route de sa monoplace, la performance, un peu tout. Et Kimi Raikkonen l'a bien noté, ça. Et la monoplace est plus facile à piloter. En plus, Kimi Raikkonen avait comme coéquipier Fernando Alonso. Et on sait qu'il est très difficile de l'avoir comme coéquipier, de pouvoir progresser, évoluer en ayant Alonso de l'autre côté du garage. Mais bon, ce n'est pas une excuse, hein, c'est juste une partie d'explication. Même si l'explication se trouve dans tout simplement la nouvelle façon d'aborder les virages, les accélérations, les freinages avec les monoplaces hybrides. Tout simplement. Et donc, Ferrari a fait des grosses évolutions et aussi, on n'en parle pas assez, Pirelli a apporté des nouveautés sur les gommes arrière, sur les pneus arrière, des modifications tout simplement sur les pneus arrière qui ont fait beaucoup de bien, des améliorations, hein, autres que des modifications, hein, c'est même plus que des modifs, hein, c'est des améliorations sur les pneus arrière qui font que Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen se sentent plus à l'aise dans leur type de pilotage avec. Et en plus, ils se sont adaptés, les essais hivernaux leur ont bien servi pour vraiment être au point pour cette saison. Je le rappelle, hein, ces deux champions du monde. Donc voilà, d'autant de raisons qui font que ces deux pilotes sont au niveau aujourd'hui et se retrouvent leur plus haut niveau. Parce que quand on regarde le rythme en course à la fois de Vettel et de Raikkonen, c'est vraiment du lourd. Et c'est vraiment, on retrouve le Raikkonen d'il y a 2 ans et plus si affinité. On retrouve le Vettel d'il y a 2 ans également et plus si affinité. Donc ça va faire mal. Ça va faire mal avec la Ferrari de cette année si elle apporte les évolutions qu'il faut. Et on peut la retrouver à la lutte pour le championnat du monde, peut-être. À voir. Mais attention, comme je l'ai dit, Mercedes reste le client favori et reste un peu devant quand même. Voilà, et bien c'était tout pour cette chronique. Vous avez vu, c'était assez court, il n'y a pas grand chose à dire finalement, à part que Vettel et Raikkonen, ben c'est resté des grands pilotes. Il fallait pas dire l'année dernière, comme je l'ai entendu, et oui, je l'ai entendu encore une fois, la saison dernière, dire que Vettel et Raikkonen étaient cramés, que Vettel, de toute façon, dès qu'il a pas une voiture qui lui convient parfaitement, il est mauvais, alors que bon, on semble oublier très vite l'épopée Toro Rosso, on semble oublier pas mal de choses. Et Kimi Raikkonen, on l'annonçait cramé, alors que bon, il y a à peine un an, il faisait des grosses performances avec Lotus. Quand même, on parle de champion du monde, il faut quand même montrer un peu de respect et rester lucide dans ses analyses. Et c'est ce que je pense avoir fait la saison dernière. Et force est de constater que les faits me donnent raison cette saison. Les faits me donnent raison puisque les deux pilotes qui se retrouvent dans la même écurie, finalement, retrouvent le plus haut niveau. Comme par hasard, à croire que ils l'ont perdu le plus haut niveau la saison dernière, ils l'ont retrouvé d'un coup, hein, sous le sapin de Noël, l'hiver dernier. Voilà, donc bon, à un moment, faut arrêter un peu les bêtises et rester lucide sur ce qui se passe en Formule 1 pour mieux comprendre le sport et ben lui rendre ses lettres de noblesse et surtout le respecter au mieux. C'est ce qui me semble le plus important également dans Analyse F1. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager si vous le souhaitez. Et également à me suivre sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter. Facebook, donc, vous cherchez Analyse F1 dans la barre de recherche et vous devriez me trouver. Et pour Twitter, c'est @F1Analyse. @F1Analyse. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur ces médias-là. N'hésitez pas à commenter également, à donner votre avis sur les podcasts. Sur PodCloud, vous pouvez écrire des commentaires sur le mini-site analysef1.podcloud.fr. Sous chaque article, il y a un espace de commentaires, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je les lis tous et j'essaye d'y répondre quand je les vois. Voilà, eh bien, je vous remercie et puis d'ici la prochaine fois, c'est-à-dire une nouvelle émission qui concerne les circuits, parce que ça me paraît important. On sait que le Grand Prix d'Allemagne n'aura pas lieu cette saison et donc je vais revenir sur les choix qui ont été faits ces dernières années concernant les circuits. Donc, il y a pas mal de choses à dire, franchement, et je vais bien m'amuser. Et d'ailleurs, si vous voulez participer à cette émission via Mon Souvenir F1, la rubrique Mon Souvenir F1, n'hésitez pas à me contacter n'importe où. Si vous voulez m'ajouter directement sur Skype, le Skype, c'est Analyse F1. Comme ça, on convient d'un rendez-vous pour pouvoir faire la chronique, et puis ce sera parti. Sinon, ben, j'aviserai de ce que je ferai au milieu de l'émission. Voilà, je vous remercie et puis d'ici le prochain podcast, et puis il y aura peut-être avant le prochain podcast le prochain Grand Prix de F1, eh bien ce week-end, vivons tous notre passion. À bientôt.